Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Jody Daniel Kachama. Okapi.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous servir dans cette émission. Nous allons parler de la traite des personnes. Comment lutter contre la traite des personnes en République démocratique du Congo? Nous allons en parler, nous en parlons tout à l'heure avec Madame Cécile Rebecca Meta-Kassanda. Elle est coordonnatrice de l'Agence pour la prévention. Pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes. Madame Cécile, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Bienvenue dans cette émission. Nous allons accueillir tout à l'heure monsieur Fils Lien, Eli Telot, il est conseiller technique à l'Organisation internationale des migrations. Il va nous rejoindre également dans cette émission de la vie au quotidien qui s'intéresse à la traite des personnes. Dans la deuxième partie de cette émission, nous parlerons de la reprise des classes. À quand la reprise des cours dans les écoles primaires et secondaires de la République démocratique du Congo? Nous recevrons Jean Bosco Pouna, secrétaire général du CINECAT, ainsi que d'autres intervenants, d'autres invités vont participer à cette émission pour en savoir un peu plus. Vous avez des questions et préoccupations par rapport à ces deux sujets, eh bien, composez déjà le 081-890-63-94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Dieudonné Nyangassa, à la mise en onde, Marcel Ngombo, assure la coordination de cette émission que réalise Tati Mapuku au micro. C'est Jody Daniel Kachama sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Écho du développement, une émission qui touche à votre environnement immédiat. L'agriculture, l'économie verte, les questions liées au changement climatique et tout ce qui touche au développement durable. Les causes, les conséquences, les pistes de solutions aux problèmes qui affectent la planète, c'est dans Écho du développement. Suivez cette émission tous les jeudis à 9h15 et 20h30, en rediffusion le samedi à 13h05.
Encore une fois, bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Nous parlons aujourd'hui de la traite des personnes. Vous savez, la traite des personnes également connue sous le nom d'esclavage moderne ou des traites des êtres humains est une réalité en République démocratique du Congo. Bon nombre de femmes et enfants sont victimes d'exploitation sexuelle et du travail domestique forcé. D'autres se retrouvent dans les mines et dans les groupes armés comme par exemple les enfants soldats. Alors, comment lutter efficacement contre cette pratique sur l'ensemble du territoire national? Nous avons en ligne Madame Cécile Rebecca Meta-Kassanda, coordonnatrice de l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes. Madame Cécile, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Bien, la première question est de savoir qu'est-ce qu'on entend par traite des personnes ou la traite des êtres humains.
Bon, la traite des personnes, c'est une violation des droits de l'homme. Elle est composée de plusieurs actes. Mais les actes principaux, c'est l'enlèvement, l'hébergement, le transport, l'exploitation. Et nous retrouvons dans la traite. Je vais donner un exemple, puisque la définition que nous donne la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée est très longue. Mais si j'en parle, ça va prendre trop de temps. Je vous donne un cas typique de traite des personnes. La traite des personnes se caractérise surtout par l'exploitation. Par exemple, vous avez un domestique à la maison. Vous l'avez engagé pour un travail bien déterminé, c'est-à-dire soit il fait les travaux ménagers. Et cette personne, dans la plupart des cas, dans notre pays, est exploitée. Je m'explique. La personne, d'abord, est engagée sans contrat, sans détermination d'heure de service. Donc, elle ne sait pas quel est le travail précis qu'elle fait. Elle fait le ménage, elle fait le repassage, elle fait même le jardinage, elle prépare, donc elle fait tout. Et cette personne, dans le cas de la traite, est exploitée par son employeur. Et l'exploitation s'est faite surtout en ce qui concerne les heures de service. La personne peut travailler 12 heures et pour quel salaire? Un salaire de misère. Donc, elle est surexploitée. Un autre cas, c'est le cas d'exploitation sexuelle. L'exploitation de la débauche. Nous vivons dans une société qui est précarisée à cause des conditions de travail. Les parents, dans cette ville de Kinshasa, il y a des parents qui envoient leurs enfants sur la route pour faire la débauche et leur ramener l'argent. Et ils disent Baninga bakende ke bazonga bale loko yo maboko pamba. Donc cet enfant va sortir, une fille va sortir pour aller voler et aller faire la débauche, avoir l'argent pour soutenir sa famille. Là, c'est une exploitation. Il y a aussi ce qui est très, très vulgaire, la mendicité sur la route. Si vous arrivez sur le boulevard du 30 juin, au niveau de la grande porte, il y a des enfants. Soit ils sont avec des aveugles, soit les parents sont assis quelque part, donc ces enfants mendient et rapportent à ceux qui les ont envoyés. Donc c'est une sorte d'exploitation, donc la traite c'est une sorte d'exploitation qui rend la personne, qui met la personne au niveau d'une marchandise, donc qui déshumanise la personne.
Et quelles sont les autres formes de la traite des personnes qu'on retrouve généralement dans notre pays?
Dans notre pays, nous avons l'utilisation des enfants, donc le recrutement des enfants dans les groupes armés. Le recrutement des enfants et des femmes dans les mines et carrières. Le travail domestique, donc une exploitation sous forme de travail domestique. Nous avons les violences sexuelles. Les violences sexuelles à but d'exploitation pour produire de l'argent à donner à autrui. Nous avons aussi une forme de vente d'organes. Et il y a aussi l'adoption. Il y a une forme d'adoption qui s'est développée dans notre pays. Les gens adoptent des petits-enfants pour pouvoir aller les vendre. Ou il y a aussi l'enlèvement. L'enlèvement des personnes. Donc, souvent, ce sont des jeunes qu'on enlève. L'enlèvement...
Pour aller les vendre à l'étranger.
À vendre à l'étranger ou amener quelque part pour une exploitation, soit sexuelle, soit dans le cadre du travail. Donc, il y a eu un courant il y a quelques années où les jeunes gens étaient recrutés ici. On leur miroitait d'aller travailler soit au Liban, soit au Koweït, soit en Asie. Il y a beaucoup d'enfants qui sont partis comme ça, des jeunes, pour aller travailler. Mais arriver là-bas, soit c'était pour la vente d'organes et les parents attendent ici, soit pour l'exploitation sexuelle, soit pour le travail, donc l'esclavage moderne. Donc, et ça, c'est quand on les envoie à l'extérieur. À l'intérieur du pays, nous avons découvert un réseau qui prend les jeunes filles à l'est pour les amener ici à Kinshasa, sous forme qu'elles viennent travailler. Et qu'est-ce qu'on fait à leurs parents? On leur donne chaque mois 30 ou le maximum de $50. Et la fille est ici, elle fait le ménage, elle est exploitée sexuellement par son employeur, par les amis de son employeur. Mmh. Et ce réseau-là existe et il y a une agence bien déterminée, une agence de voyage qui est bien installée à l'Est, qui fait ce travail-là. D'ici peu, elle sera démantelée.
Pour exploiter des petites filles.
Des filles entre 12 et 17 ans. Et ici, dans la ville de Kinshasa, il y a un réseau de recrutement des jeunes filles de teint clair, vierges, pour certaines personnes bien aisées. Donc, il y a beaucoup de formes d'exploitation. Et les personnes qui perçoivent l'argent, que ces personnes la payent, ce sont ceux qui ont recruté les enfants. Et ils vont leur donner, ici à Kinshasa, les filles qui sont recrutées, on leur donne 200-300 dollars. Alors que ces personnes-là payent des milliers de dollars pour avoir des petites filles vierges.
Et qu'est-ce qu'ils veulent faire avec les petites filles vierges?
C'est l'exploitation sexuelle.
On a appris qu'il y aurait même un réseau des gens qui recrutent les filles ici et qui les font traverser les fleuves pour aller se prostituer à Brazzaville.
Oui, ça c'est un autre réseau. Nous sommes en train de suivre qui prend les filles de moins de 18 ans, qui les amène de l'autre côté du fleuve. Et ils passent par Maluku, par les pirogues. Ils traversent le fleuve par pirogue.
Avec tous les risques que cela la comporte.
Oui. Il y en a qui meurent pendant la traversée. Puisque quand elle tombe dans l'eau, qui va la suivre?
Parce que souvent,
donc, il y a plusieurs réseaux.
Formes. Oui.
L'agence est en train de suivre pour pouvoir les démanteler.
Alors aujourd'hui,
avec l'aide de la police et des parquets.
Alors comment vous comptez aujourd'hui lutter efficacement contre la traite des personnes? On a appris que vous travaillez en collaboration avec l'USAID pour en finir avec ce phénomène.
Bon, l'agence a un plan stratégique de lutte contre la traite des personnes.
Oui.
Et ce plan couvre la période allant de 2020 à 2024. Il y a une série d'activités qui sont prévues pour pouvoir lutter contre, prévenir et lutter contre la traite des personnes. Dans le cadre de la prévention, nous avons la sensibilisation, l'information, la formation, les recherches et les publications. Et dans le cadre de la lutte, nous avons le travail qui doit être fait sur terrain. Donc, le démantèlement des réseaux, ça c'est dans la lutte, les poursuites, la prise en charge des victimes, la protection des victimes et des témoins, et la resocialisation des victimes. Ça c'est dans le cadre de la lutte. Donc, on fait des poursuites, on fait des enquêtes et on juge.
Bien. On va accueillir M. Fils Lien et Eli Telot, conseiller technique à l'OIM. M. Fils Lien, bonjour.
Bonjour. Bonjour à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent. Et merci à vous de nous avoir invités.
Bienvenue dans cette émission. Bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien, qui s'intéresse aujourd'hui à la traite des personnes en République démocratique du Congo. Nous venons, Madame Cécile est aussi avec nous. Elle nous a expliqué ce que c'est la traite des personnes. Alors dites-nous, Monsieur Fils, quels sont les mécanismes à mettre en place pour lutter efficacement contre ce phénomène à RDC et surtout arriver aussi à démanteler démanteler les réseaux des gens qui se font de l'argent sur d'autres personnes.
En effet, il y a beaucoup de choses à faire en RDC, mais déjà, il faut bien commencer par saluer les efforts qui ont été faits jusqu'à maintenant pour lutter contre ces fléaux qui constituent une grave violation des droits de la personne en RDC. Vous avez parlé des mécanismes à mettre en place. La première chose, c'est justement que en RDC, on arrive à avoir une loi sur la traite des personnes qui permettrait de criminaliser au niveau national ce crime et qu'on considère comme une grave violation des droits de la personne. Donc cette loi qui doit être mise en place avec l'agence, l'OIM travaille en appui au gouvernement congolais pour que cette loi-là soit élaborée. Il y a déjà eu plusieurs séances de travail qui ont été faites dans cette perspective. L'OIM a appuyé, a accompagné l'agence pour que l'on puisse réfléchir. Et aujourd'hui, au niveau du gouvernement, il y a un avant-projet de loi qui est en discussion. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est ce qui a déjà été fait par le gouvernement, par la présidente, c'est la mise en place, justement, de cette agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes. Cette agence, justement, est un élément important parce que cette agence comporte deux organes, la coordination, justement, dont Mme Cécile est la coordonnatrice, et la commission technique. Donc, ces deux organes-là, justement, doivent jouer un rôle important dans la lutte contre la traite des personnes en RDC. Nous sommes en train aussi de travailler avec l'agence à l'élaboration de ce qu'on appelle les SOP, Standard Operational Procedure. C'est en fait des mécanismes de référencement des victimes de la traite des personnes. En fait, c'est un élément important si on veut combattre la traite des personnes de manière efficace. Il faut qu'il y ait des mécanismes de référencement qui permettraient à l'ensemble des acteurs de mieux se coordonner entre eux, de sorte que les victimes bénéficient des meilleurs services possibles. En parlant des services, justement, avec l'agence, l'OIM travaille à ce qu'on ait très bientôt une sorte de mapping des prestataires de services de soins destinés aux différentes catégories les plus vulnérables à la traite des personnes en RDC. Il y a tout un ensemble de réflexions qui doit être fait, et je félicite l'agence pour les avoir déjà initiées, sur la coordination des acteurs impliqués dans la lutte. Et je parle ici principalement des acteurs de première ligne. Il n'y a aujourd'hui, en RDC, et ceci dans n'importe quel pays d'ailleurs, aucun acteur qui peut prétendre vouloir pouvoir combattre la traite des personnes tout seul. En fait, la lutte contre la traite des personnes implique un ensemble d'acteurs qui travaillent en coordination, en partenariat, chacun jouant son rôle, et l'agence ici en RDC, son rôle principal, comme l'a dit bien fait remarquer Mme Cécile, la coordonnatrice, c'est justement de faire en sorte qu'il y ait un plan d'action, donc une stratégie nationale qui participe d'une politique globale de l'État, du gouvernement, de protection des droits de la personne. Mmh. Et en fait, aujourd'hui, on a ce plan d'action qui va jusqu'à 2024 et à l'intérieur de ce plan d'action, chaque acteur doit jouer son rôle. C'est extrêmement important que chaque acteur puisse jouer son rôle et ses rôles doivent être imbriqués, coordonnés les uns par rapport aux autres si on veut avoir des résultats, si on veut agir dans une logique de cohérence.
Bien, on va accueillir un auditeur, Daniel Lungembo depuis Kisangani. Vous voulez participer à cette émission, vous avez des questions et préoccupations, composez le 081 890 63 94.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Okapi. Comment lutter efficacement contre la traite des personnes en RDC? Daniel Lungembo de Kisangani, bonjour et quelle est votre question?
Bonjour à Okapi, bonjour à tous les membres qui nous écoutent. C'est Daniel Lungembo depuis Kisangani. Il faut savoir que l'État ne saura pas il y a traitement inhumain au domestique sans que les victimes ne dénoncent pas. Le grand problème est que les personnes victimes de l'esclavage ou du traite des êtres humains ne dénoncent pas. Ces personnes qui sont victimes.
Daniel, alors quelle est la question? Les personnes ne dénoncent pas, alors quelle est la question que vous adressez aux invités?
Oui, les personnes ne dénoncent pas, alors ma préoccupation est celle-ci. Je propose, pour lutter alors contre ces injustices, il faut que les personnes victimes d'esclavage ou de traitement cruel puissent dénoncer, soit leurs voisins peuvent aussi dénoncer et aussi porter plainte devant la justice contre ces personnes ou contre ces auteurs, afin que ces personnes soient punies. Puisque, Radio Capi, vous imaginez, vous êtes devant un fait comme ça que la population est tentée de réclamer sur l'innocence d'une personne. On ne poursuit pas, on laisse la personne comme ça. Moi, j'aimerais que l'État puisse mettre un regard pour des personnes. La patrie, les enfants qui n'ont pas de moyens.
D'accord.
Il y a aussi
d'accord.
Des moyens, mais il pourrait, merci.
Merci Daniel Lungembo. Madame Cécile, qu'est-ce que vous pouvez dire à cet auditeur de Kisangani?
Oui. Je vous remercie. Je demande à monsieur Lungembo de savoir que dans quelques jours, l'agence va lancer une ligne verte où tout le monde pourra appeler gratuitement. Nous attendons qu'on nous accorde le numéro, puisque la demande est déjà introduite et tout est déjà fait. Nous attendons qu'on nous accorde un numéro auquel n'importe quelle personne peut appeler pour dénoncer le cas de traite. Soit il est témoin, soit lui-même est victime. Donc, là va être intensifié dans quelques semaines lorsque nous allons descendre sur terrain pour sensibiliser la population et faire un plaidoyer au niveau des gouvernants. Et parmi les gouvernants, nous visons l'exécutif provincial tout comme l'exécutif national, les députés provinciaux et nationaux, les autorités administratives, les autorités coutumières, les leaders d'opinion, donc les gens de la société civile et autres. Donc, nous allons sensibiliser toute la population et cette campagne a été lancée au mois de novembre officiellement sous le thème « Ensemble dénonçons les cas de traite ». Donc, que M. Lungembo se tranquillise, dès que la ligne est opérationnelle, nous allons la diffuser et ils pourront appeler et dénoncer. Et nos services sont formés pour prendre en charge ces personnes et
bien
les orienter.
Bien, Madame Cécile, vous avez dit tout à l'heure que les formes de traite des personnes en RDC, vous avez parlé de l'adoption, il existe une forme d'adoption, et vous avez parlé des enlèvements et des trafics des organes, mais on a appris que la RDC avait interdit à un certain moment l'adoption des enfants dans ce pays. Est-ce que la mesure est toujours en application ou bien elle a été levée?
La mesure est toujours en application, puisque c'est pas
elle est toujours
cette
d'application.
Forme d'adoption internationale que beaucoup d'enfants sous prétexte qu'ils sont adoptés pour leur bien-être, se retrouvent dans les conditions de la traite. Soit ils ont été vendus, souvent aux couples homosexuels, vendus pour des organes ou gardés pour servir de d'objets sexuels.
Et généralement, ces enfants sont amenés dans quel pays? C'est beaucoup plus dans les pays du Maghreb.
Bon, il y a les enfants qui ont été amenés en Europe. Le parquet fédéral belge a un dossier là-dessus et c'est une Belge d'origine congolaise qui est la pièce maîtresse de ces adoptions-là qui avaient ramené un groupe d'enfants en Belgique. Il y a un autre dossier qui est suivi toujours par le parquet général, parquet fédéral belge, des enfants qui ont été amenés aux États-Unis. Et nous avons aussi reçu un dossier de deux jumeaux enlevés au Kassai, vendus ici sous forme d'adoption, qui se retrouveraient à Atlanta, aux États-Unis. Donc, en dehors de ceux qui sont partis dans le pays du Moyen-Orient et dans le pays de Maghreb, donc il y a ces cas-là qui sont au niveau des justices.
Bien, on va accueillir un autre auditeur, Jean-Pierre Benanga depuis Isangi. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Jean-Pierre, veuillez vous éloigner de votre... Jean-Pierre, veuillez vous éloigner de votre radio. Jean-Pierre, s'il vous plaît, écoutez-moi. Veuillez vous éloigner... Oui, et veuillez vous éloigner d'abord de votre radio, parce qu'il y a... On a un retour à l'antenne qui est désagréable.
Oui, oui, je suis éloigné.
D'accord. Bon, maintenant, allez-y.
Dire que
Bon, Jean-Pierre, on entend toujours la radio. Vous êtes toujours à côté de votre radio.
Ah, ben, la radio est loin de moi.
Oui, bon. Et demandez à ceux qui sont à côté de diminuer le volume de la radio, s'il vous plaît.
Ok. Voilà, je veux seulement intervenir sur l'article 16 de la Constitution. Et que dit cet article? L'article 16 de la Constitution dit « La personne humaine est sacrée et l'État a l'obligation de respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie, à l'intégrité physique ainsi qu'au libre développement de la personnalité dans le respect de la loi, de l'ordre public ou du droit d'autrui et de lui-même. Il ne peut être tenu en esclave dans une condition analogue.
D'accord, Jean-Pierre. D'accord, ça c'est ce que dit la loi. Alors quelle est la question que vous adressez aux invités?
Oui.
Quelle est maintenant votre question, Jean-Pierre?
Oui, ma question est ceci. Le qui est en train de veiller pour protéger la population et faire l'air bien? Des personnes. Mais comment voulez-vous, on doit prendre une femme, une fille, un enfant à la maison, le quartier, il y a des sécurités, il y a des agents de l'année, il y a la police, mais les gens ne veulent pas dénoncer. Et même ces gens-là, ils ne sont pas identifiés comment. Les gens qui sont en train de faire de telles manœuvres dans le pays. Je suis Jean-Pierre Benanga.
Merci. Merci Jean-Pierre. Monsieur Fils Lien, vous avez suivi la préoccupation de Jean-Pierre. Comment est-ce qu'on n'arrive pas à identifier toutes ces personnes qui font ces réseaux des personnes qui font la traite d'êtres humains?
C'est une question très pertinente et je remercie Monsieur Jean-Pierre de l'avoir posée. Il faut savoir que ce problème qui est posé en RDC est un problème qu'on retrouve dans tous les autres pays au niveau mondial et dans les pays dits du Sud en particulier. En fait, les trafiquants travaillent en réseau et ce sont des réseaux parmi les plus actifs dans le monde. D'ailleurs, la traite des personnes figure parmi les crimes transnationaux les plus lucratifs dans le monde. Après le trafic de la drogue et avant même le trafic des armes à feu, en deuxième position des crimes, on a la traite des personnes. Cela rapporte des milliards de dollars. Par exemple, rien que sur le travail forcé, les réseaux de trafiquants arrivent à générer un profit illicite de plus de 150 milliards de dollars. Ils ont donc les moyens, ils ont beaucoup de ressources à leur disposition qui leur permettent en effet de commettre leurs crimes. Les États travaillent en collaboration. En RDC, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour que ces trafiquants puissent être traduits devant la justice. Il y a aujourd'hui une loi qui est en discussion qui va permettre de mieux traquer ces criminels. Première chose. Deuxième chose aussi, il faut dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui doivent être faits afin que la population soit sensibilisée, informer et former sur ce qu'est la traite des personnes. Parce qu'il y a beaucoup de victimes qui ne savent même pas qu'elles sont victimes.
Et qui ne dénoncent pas.
Justement, ne sachant pas qu'elles sont victimes, elles ne dénoncent pas.
Il y a même des trafiquants qui estiment rendre service à travers des actions qu'ils posent. Donc, dans beaucoup de cas, les réseaux agissent à visage découvert et il n'y a pas de dénonciation. Et lorsqu'il y a des dénonciations, nous devons reconnaître. C'est le cas dans beaucoup de pays, dont ici, qu'il y a beaucoup de failles dans le système de justice qui fait que, malheureusement, ils arrivent à échapper aux mailles du filet. Donc, en effet, il faut que l'État congolais continue les efforts afin que ces réseaux de trafiquants soient poursuivis, soient arrêtés, soient condamnés. C'est vraiment important qu'il y ait des exemples qui soient tracés parce qu'on ne peut pas accepter aujourd'hui qu'en RDC, il y ait autant de victimes. Je ne sais pas, bon, je pense que vous le savez déjà, qu'il y a beaucoup de cas de violences sexuelles en RDC, il y a beaucoup de victimes de violences basées sur le genre, d'exploitation sexuelle. Par exemple, en 2020, il a été dit que près de 30 000 personnes, hein, 26 910 cas ont été enregistrés en 6 mois. Parmi ces victimes, nombreux d'entre elles sont victimes de traite des personnes. Par exemple, rien qu'en Ituri, en 2020, sur 1305 victimes de violences sexuelles, 50% ont été victimes d'exploitation sexuelle. La question maintenant est de savoir combien de trafiquants ont été arrêtés pour ces crimes odieux commis. On peut dire aussi pour les enfants chégués, ce qu'on appelle les chégués qu'on trouve dans les différentes grandes villes de la RDC. En RDC, les chégués sont nombreux. Il y a plus de 50 000 chégués en RDC. Et rien qu'à Kinshasa, ils sont plus de 20 000. Et parmi ces chégués, nombre d'entre eux sont victimes de mendicité forcée. Ce qui veut dire que c'est des enfants qui sont forcés à mendier. Et dans beaucoup de cas, lorsque les enfants sont forcés à mendier, ils sont aussi forcés à commettre différents petits larcins. La question est de savoir combien de trafiquants ont été arrêtés en RDC pour avoir mis ces enfants dans des situations qu'on peut considérer comme les pires formes du travail des enfants.
Monsieur Fils, comment est-ce que ces trafiquants arrivent à recruter les enfants? Quelles sont les astuces qu'ils utilisent pour arriver à avoir les enfants et avoir même l'accord de leurs parents pour enfin les amener ailleurs et les utiliser comme des objets sexuels?
Justement, écoutez, c'est assez compliqué. Déjà, il faudrait qu'on se rappelle ce qu'est la traite des personnes. La traite des personnes, c'est justement le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement, l'accueil par la ruse. Première chose, justement, c'est que les trafiquants utilisent la ruse pour recruter les enfants, la tromperie, des fois la force, la menace, les abus d'autorité. Donc c'est ça qu'ils utilisent. Ces ruses-là, par exemple, arrivent à trouver des brèches faciles du fait de la pauvreté, du fait de l'ignorance et surtout du fait des conflits armés qui sévissent, qui impliquent des déplacements de population. Donc ce sont des contextes qui facilite le travail des trafiquants. Mais concernant les enfants, justement, chez eux en particulier, il y a un ensemble de facteurs qui viennent aggraver cette situation et faciliter le travail des trafiquants, notamment la crise des familles. Aujourd'hui, il y a dans beaucoup de cas qui nous parviennent, et je crois que Madame la coordonnatrice peut en témoigner parce qu'on travaille sur des cas comme ça, les enfants qui se retrouvent victimes de ces réseaux-là viennent de familles qui sont décomposés, qui sont en ce qu'on appelle situation de décomposition et dans des familles en recomposition. Il y a une véritable crise de la matrimonialité en RDC où on a des familles qui sont séparées, où les pères, les mères sont séparés, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Donc ça aussi, ça facilite le travail des trafiquants. Deuxième chose, c'est les croyances religieuses. C'est triste à dire, mais vous avez beaucoup de ces enfants qui se retrouvent seul, isolé, parce qu'un certain pasteur, un certain prêtre, une certaine personne qui aurait fait un rêve, a estimé que c'est un enfant sorcier. Et en accusant les enfants de sorcellerie, les parents les chassent de la maison, ils se retrouvent particulièrement vulnérables, justement, à des réseaux de trafiquants. Il faut qu'on adresse ces problèmes et qu'on trouve des manières de protéger ces enfants de sorte qu'ils ne soient pas aussi vulnérables aux risques du trafiquant. Mais il n'y a pas que les chégués, il y a aussi le mariage forcé. Aujourd'hui, en RDC, près de 40% des filles qui sont mariées à l'âge mineur, à moins de 18 ans. La RDC figure parmi les 20 pays où il y a le plus fort taux de mariage des mineurs. Plus de 1 million, donc précisément 1,3 million de mariages concernent des mineurs en RDC.
Monsieur Fils, donc, un instant, on va accueillir un auditeur, Kachai de Kanyoka. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody Daniel Kachama, et bonjour aux invités.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la traite des personnes en RDC?
Merci beaucoup, monsieur Jody. J'ai d'abord un cas à porter à la connaissance des invités et après poser quelques questions. Le cas sur lequel une personne venant de l'extérieur, de l'étranger, se réclamant religieuse, a recruté certaines jeunes filles dont l'âge varie entre 12 à 17 ans pour faire d'elles des religieuses dans un groupe religieux. Mais ce que je dis, on a pris ces jeunes filles ici avec le consentement de leur famille que nos enfants vont devenir des religieuses. Elles sont parties à Kinshasa. De Kinshasa, Butembo. Mais ce que je dis, ces enfants-là se sont retrouvés dans un endroit où elles ne pouvaient pas collaborer avec d'autres personnes si ce ne sont que celles qu'elles avaient trouvées dans cet endroit-là. Et chaque fille était visitée la nuit par par un homme. Elle n'avait pas un mot à dire. Donc,
ces filles avaient quel âge?
Je vous ai dit que l'âge varie entre 12 à 17 ans.
D'accord.
Donc, des filles mineures. Mmh. Des filles mineures. Jusqu'ici, certaines ne sont pas encore rentrées. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? La dame là qui était venue de l'étranger se réclamant religieuse est repartie à l'étranger et l'a laissé ses enfants là. Jusqu'ici, nous n'avons pas de nouvelles de ses enfants, bien que les enquêtes sont en cours.
Et comment savez-vous que ses enfants se trouveraient à Butembo?
Oui, c'est l'une d'entre elles qui a informé sa famille ici. Alors, elle a tout dit. Elle a dit la vérité à la famille que nous, ici, à Butembo, nous sommes venus à Kinshasa, de Kinshasa à Butembo, c'est là où on nous a laissé. Et il n'y a pas du religieux là-bas. Il n'y a pas de la Bible, il n'y a pas de l'évangile. Il n'y a que de l'acte sexuel qui se passe sans notre consentement et vous n'avez pas droit à refuser cela. Et chaque jour, c'est comme ça.
Mmh.
On nous dit que vous êtes venu ici pour ceci et vous n'avez pas à refuser. Alors, imaginez-vous, vous vous retrouvez dans cet endroit-là, sans secours, sans personne qui peut venir à votre aide. Vous n'avez ni argent, ni quoi que ce soit, tout vous est donné. Alors, vous pensez que vous allez émettre quel point de vue, monsieur Jody? Ça, c'est le cas que nous avons vécu ici. Donc, nous devons faire attention avec les religieuses, surtout qui viennent de l'étranger. Alors que ces religieuses-là étaient déjà même mariées. Mais elles viennent
bon,
ici
peut-être que c'est... Pour... En réalité, ce ne sont pas des religieuses. Elles se font passer pour des religieuses pour se faire accepter et puis mettre les gens en confiance.
Oui, vous avez bien compris, monsieur Jody. Alors, vous savez, surtout quand nous voyons que c'est un homme blanc, une femme blanche qui vient. Alors, nous, les Noirs, nous paniquons. Hein, on nous flatte avec des bons propos et par la suite... Ils cherchent à atteindre leur objectif. Maintenant, monsieur Jody, je voulais demander à madame, en dehors du numéro qui sera mis à la disposition de la population...
Le numéro vert.
C'est le numéro vert pour dénoncer des cas.
Mmh.
Alors, à leur niveau, ils ne peuvent pas d'abord commencer à faire un plaidoyer au niveau de l'Assemblée nationale à ce que les députés puissent voter une loi protégeant d'abord les bonnes. Monsieur Jody, ici, là, je ne sais pas c'est quel contrat qui lie les bonnes à leurs responsables, à leurs chefs. Je ne sais pas c'est quel contrat, parce qu'ils travaillent sans contrat. Et parfois, elles sont exposées au cas de violences sexuelles. Et quand on vous paye 10 dollars le mois, mais un autre mois, on vous donne 50 dollars. À l'absence de madame, vous pouvez accepter ce que le chef peut vous demander. Alors, vous voyez, même non seulement les dames, mais aussi les hommes, ils peuvent tomber devant les femmes de leurs responsables, vice-versa. Alors,
d'accord.
Je voulais simplement demander à madame, oui, n'y a-t-il pas moyen de mettre à la disposition, de faire un plaidoyer pour qu'une loi soit votée protégeant les bonnes? Ça, c'est
d'accord. De deux. Rapidement,
oui. Il a été dit que les enfants ne peuvent voyager qu'avec l'autorisation donnée par le tribunal de l'enfant. Alors, les services de sécurité, l'ANR et DGM, ces services-là, est-ce qu'ils travaillent normalement en collaboration avec la structure de Mme Cécile pour permettre à dénicher des cas de fraude? Surtout, les enfants sont... On les fait voyager comme ça, sans autorisation du tribunal. Alors qu'il est dit, il faut qu'il y ait...
Une autorisation préalable du tribunal. Merci, Kachai.
Pour enfants.
D'accord.
Et en même temps, l'acte de naissance.
Merci. Madame Cécile, vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup. Je remercie M. Kachai qui nous a donné un cas type de traite. Pour ces cas... Nous allons entrer en contact avec lui. Je pense que la radio Capi va nous communiquer son numéro de téléphone pour que nous puissions entrer en contact avec lui. Pour sa question de protection des bonnes, et donc des bonnes et des bons, puisqu'il y a des domestiques hommes aussi.
On les appelle des bons.
Ils sont victimes de violences sexuelles ou de viols de la part de leur employeur. Nous avons fait un plaidoyer au niveau de l'Assemblée nationale et nous continuons ces plaidoyers. Nous allons descendre même au niveau des provinces pour que chaque, en dehors de la loi qui sera votée ici, que chaque assemblée provinciale prenne un édit, puisque tous les cas ne seront pas répertoriés par la loi, mais on peut suppléer à la loi par les édits qui seront pris comme mesure politique au niveau de chaque province. Et nous sommes en train de préparer une série de mesures politiques. Il y a déjà la mesure qui a été prise par l'ANR, la DGM, la Direction Générale des Migrations, où aucun enfant ne peut sortir de la RDC sans qu'il y ait l'autorisation de l'ANR. Et cette autorisation est basée sur la vérification d'un certain nombre de documents et de faits. On sait qu'au niveau des tribunaux, c'était surtout pour les adoptions. Mais il y a des enfants qu'on prend. On prétend que c'est mon enfant.
Et pourtant, ce n'est pas le cas. Autre.
Mais quand vous vous présentez à une frontière, que ce soit au niveau des aéroports ou bien au niveau des gares routières, on doit vérifier les enfants que vous êtes en train de partir avec. Et cette vérification nous a donné une information au niveau de Loufou où deux enfants allaient entrer en Angola avec des personnes qui les avaient enlevés qui n'étaient pas leurs parents. Donc, il y a déjà des mesures qui sont prises au niveau de l'État et nous faisons un plaidoyer pour que la loi sorte et cette loi sera expliquée aussi aux assemblées et aux autres autorités. Et pour ce qui est du numéro vert, nous poussons les démarches pour que nous puissions l'avoir rapidement. À ce niveau, on ne sait pas communiquer encore un numéro de téléphone puisque ça va demander à la victime ou au témoin d'avoir de l'argent pour mettre le crédit dans son téléphone. Mais l'information, comme vient de nous donner M. Kachai, elle est capitale. Et nous allons l'exploiter. J'ai vu qu'il y avait d'autres intervenants du Sangui qui posaient la question sur les mesures interdisant la sortie d'enfants.
Oui. Il s'étonnait,
avec l'autorisation de la deuxième. Donc, monsieur Benanga doit, s'il y a un cas de sortie d'enfant, ça doit être vérifié. Même un enfant qui doit quitter Isangi pour Kisangani, on doit vérifier la personne qui l'accompagne, si cette personne est son parent. Et s'il n'est pas son parent, il faut une autorisation parentale légalisée par l'autorité administrative locale.
D'accord. Et par rapport au cas de Kachai, une personne qui se présente comme une religieuse et pourtant c'était des trafiquants qui ont pris les enfants pour les amener à se prostituer à Butembo. Même pour cette catégorie de personnes, donc l'adoption ou la sortie des enfants est maintenant conditionnée par... Il y a beaucoup de vérifications avant de vous laisser partir avec les enfants.
Oui, il y a beaucoup de vérifications. C'est pour ça que nous sommes en train de travailler avec la DGM et l'ANER et tous les autres services de renseignement. Nous travaillons avec eux pour qu'on n'arrive plus à cette situation. Nous savons qu'en province, il y a plusieurs sentiers pour quitter la zone. Mais cette histoire de recrutement des enfants qu'on a menée, je ne sais pas, M. Kassai se trouve au Kassai bien où ?
À Kanyoka, c'est toujours dans le Kassai central.
Donc, à Kanyoka. À Kanyoka, alors.
À Kanyoka, voilà, c'est comme ça que ça s'est
dit. Oui, à Kanyoka. Donc, c'est un des réseaux qu'il vient de nous révéler. Où les enfants quittent le Kassai, viennent à Kinshasa et puis on les ramène encore en province. Cette fois-ci à l'est, pour être exploités sexuellement. Et ça nous rejoint, ça rejoint un autre réseau qui prend les enfants au Kassai, les ramène ici et les envoie à Brazzaville. Et maintenant, nous avons encore un réseau qui amène les enfants à l'Équateur. Donc, il faudra que nous ayons le contact avec M. Kachai, nous devons voir ces cas de plus près.
Bien. Monsieur Fils Lien et Eli Telot, vous êtes conseiller technique à l'Organisation internationale des migrations. Comment vous comptez accompagner l'agence pour la prévention de la lutte contre la traite des personnes dans l'exercice, n'est-ce pas, dans cette tâche lourde qui est d'arriver à protéger les enfants et surtout à démanteler ces réseaux des criminels.
En effet, au niveau de l'OIM, nous, on a mis en place un projet qui va de 2020 à 2023. C'est un projet qui a été vraiment aligné au plan d'action de l'agence. Donc, l'OIM vient en appui à la stratégie développée par l'agence pour combattre la traite des personnes en RDC. Et par rapport à ça, vous avez parlé des enfants. Nous, dans le cadre de ce projet qui est financé par USAID, nous entendons accompagner l'agence pour combattre toutes les formes de traite, que ce soit les formes de traite qui frappent les enfants. Nous savons que ce sont les femmes et les enfants qui représentent près de 80% des victimes. Mais nous envisageons aussi accompagner l'agence pour combattre les formes de traite qui touchent les migrants, qui touchent les travailleurs. Par rapport à ça, nous allons accompagner l'agence pour, premièrement, contribuer au renforcement de ses capacités. Par exemple, nous accompagnons l'agence pour que l'agence soit dotée en équipement informatique, bureautique. Nous accompagnons l'agence justement par l'expertise technique que nous lui apportons. Nous accompagnons l'agence par la mise en place d'une base de données, parce que nous avons besoin de données. Il est important qu'on puisse dire aujourd'hui en RDC, chaque année, comment se comportent les différentes formes de traite, comment se comportent les différents réseaux, voici les différents cas, leur quantité, le profil des victimes et tout. Nous accompagnons l'agence aussi pour faire en sorte qu'il y ait des formations pour les différents membres de la commission technique, pour les différents acteurs qui interviennent en première ligne dans la lutte contre la traite des personnes. Nous accompagnons l'agence aussi pour tout ce qui est... poursuite et condamnation des criminels. Par exemple, là, nous, Nous avons noté qu'il y a une forte demande de la part de la population qu'il y ait une loi qui criminalise la traite des personnes. Nous accompagnons l'agence dans ce plaidoyer qui doit être mené à la fois auprès de l'ensemble des membres du gouvernement, mais aussi auprès du Parlement, pour que cette loi soit votée. Donc, pour la réflexion autour de cette loi, mais aussi pour cette loi suivre le parcours et puis cette votée. Nous accompagnons l'agence aussi dans l'assistance qui doit être apportée aux victimes. Là, par exemple, dans le cadre du projet, il est prévu qu'il y ait des ressources disponibles pour les victimes de traite, de sorte que ces victimes puissent être accompagnées sur le plan psychologique, sur le plan médical, que ces victimes puissent bénéficier d'une réinsertion sociale. Nous avons aussi prévu d'accompagner l'agence de sorte qu'il y ait une sorte de mapping des prestataires de services destinés aux victimes de traite des personnes. Et nous accompagnons l'agence aussi pour qu'il y ait une véritable sensibilisation, une campagne de sensibilisation de la population autour de la traite des personnes. Cet accompagnement-là va prendre la forme d'une assistance à l'élaboration d'une stratégie de communication, pas n'importe laquelle, mais une communication basée sur le changement de comportement par rapport à la traite des personnes ou à des pratiques qui peuvent favoriser le développement de la traite des personnes. Nous avons prévu d'accompagner l'agence aussi, par exemple, sur la mise en place de cette ligne verte dont a parlé la coordonnatrice. Nous avons prévu d'accompagner l'agence dans la production d'outils de communication, des spots et tout, de sorte qu'il y ait une véritable réussite de la lutte contre la traite des personnes en RDC pour les 4 prochaines années. Et nous allons accompagner l'agence aussi de sorte qu'il y ait des mécanismes de référencement pour les victimes. Et nous pensons que c'est un élément important. Et nous espérons aussi accompagner l'agence de sorte que dans les prochains rapports qui vont être produits par le département d'État américain, que la RDC soit mieux classée. Aujourd'hui, la RDC est classée en tiers de liste d'observation. Il faut savoir que...
Un instant, M. Fils, on va accueillir Victor de Calémy. Bonjour, Victor. Bonjour, Victor, vous êtes à Calémy. Quelle est votre question, rapidement?
Bonjour, Radio Capi. On vous écoute,
Victor.
Oui, la question, je voulais demander à l'invité, c'est par rapport au bourreau quand il est arrêté dans une prison quelconque. Mais pour les visiteurs, les membres de la famille qui veulent lui rendre visite, parfois, ils sont soumis à une demande quelconque d'argent pour accéder à la visite de leurs membres de famille. Si, je voulais demander à l'invité si c'est un mauvais traitement humain, et si c'est oui, où est-ce que le bourreau peut aller se plaindre pendant qu'il est encore arrêté dans la prison?
Voilà. Merci pour la question. Bon, on n'a plus beaucoup de temps. On va clôturer cette émission. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Madame Cécile, pour conclure, en quelques secondes, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à la lutte contre la traite des personnes en RDC?
Bon, en ce qui concerne la lutte qui est menée jusqu'à présent, nous sommes encore dans la prévention. Et nous entamons dans les prochaines semaines avec la formation les poursuites, puisque il fallait que les juges, les OPJ, les magistrats du parquet, les avocats et les assistants sociaux soient imprimés, donc informés et formés.
Merci Madame Cécile. On va s'arrêter là, on n'a plus beaucoup de temps. Je rappelle que vous êtes coordonnatrice de l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes. Nous disons également merci à Monsieur Ficilien Eli, conseiller technique à l'OIM. Dans la seconde partie de l'émission, nous allons parler de la reprise des cours.